Amen. Oui, je confirme ce que disait Monique concernant cette dame-là. Il me semble avoir senti ça aussi. Ah, bah, tu vois, si Laetitia, moi et Monique l'avons senti, ça veut dire quand même qu'il y avait quelque chose. Voilà. Une petite devinette comme ça pour nous relaxer un petit peu, qui n'a rien à voir avec la prédication. Imaginez que dans la même semaine, les dames concernées, ne dites rien s'il vous plaît, dans la même semaine, trois dames de notre assemblée, j'ai nommé mon épouse, Delphine, et puis quelqu'un qui est lié à l'assemblée, qui est la fille de Claire, si j'ai compris. Alors on m'a dit qu'il y avait une troisième personne. Donc, Claire et Philippe, pardon. Et on laissait tomber leur portable dans l'eau. Quand déduiriez-vous, quelle leçon spirituelle tireriez-vous de cet événement? Dans la même semaine, les trois qui laissent tomber leur portable dans l'eau, les trois. Alors, j'ai demandé à Florian, il m'a dit, ça veut dire qu'il faut faire une étude sur le déluge, puis l'arche de Noé. Mais j'ai dit à Florian, non, il faut faire une enquête sur la façon dont les choses se sont passées. Et la conclusion n'est pas spirituelle du tout, mais elle est extrêmement pratique. Il ne faut jamais aller aux toilettes sans avoir retiré le portable qu'on avait dans la poche arrière. Voilà. Pour vous dire que... Non, mais c'est une bêtise. Mais pour dire ce que je veux dire par là, c'est que parfois, la conclusion de Florian, qui était extrêmement spirituelle, ce n'était pas la bonne. En fait, la conclusion, elle était plus pratique, plus terre-à-terre que cela.
Comment ?
On peut avoir des conclusions. Non, mais c'est par rapport. Je dis ça aussi par rapport à tout ce qui se passe maintenant.
Pardon.
On a noyé le diable. Mais alors, à ce moment-là, il fallait tirer la chasse.
Il faut tirer la chasse.
Ce qu'elles n'ont pas fait. Non, pour dire par rapport à tout ce qu'on vit un petit peu pour le moment aussi, je le relis. C'est pas. Voilà, c'est en même temps, essayons d'être spirituels, c'est-à-dire voyons dans les choses. Je ne sais pas ce que j'ai prévu ce matin, il faudrait beaucoup de recherches pour ça, puis des convictions que je n'ai pas forcément, tout encore, je veux dire, mais sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, coronavirus et puis beaucoup d'autres choses aussi. On pourrait avoir une interprétation très spirituelle, mais quand on ne l'a pas, quand on n'a pas quelque chose de bien dessiné encore, des fois je crois qu'il faut faire attention, puis il faut rester à des choses qui sont de l'ordre du concret, du pratique. Quelles précautions devons-nous prendre ou ne pas prendre, etc. Puis arriver à des conclusions pratiques, c'est ce qu'on a décidé de faire donc ici, c'est-à-dire, voilà, vous avez compris, on ne se fait plus la bise, on ne serre pas les mains, mais pour l'instant, il y a bien un culte encore à Mouchard. Ce n'est pas le cas partout, ce qui peut totalement se comprendre et être justifié également, mais voilà notre décision. On essaie d'être concret, d'être pratique, de pas être dans les grandes théories, mais d'avoir une réaction qui soit pratique. Voilà, c'est pas de cela dont je voulais parler ce matin. Ce dont je voudrais parler, c'est après avoir ouvert. Donc je vais, tu as la première dia, s'il te plaît. Première diapositive. C'est pas ce fichier là. C'est pas un fichier Word, c'est un fichier PowerPoint. Il y est pas. Bon, je vais commencer quand même, ça va être beaucoup plus difficile, mais on y arrivera. Donc, je voudrais vous lire là, un petit peu, vous rappeler l'histoire de Ruth. Tout le monde connaît Ruth, hein, c'est une femme qui habitait en Israël. Elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelait Elimelech, et puis elle a eu ces deux personnes, Elimelech et puis Naomi, ont eu deux enfants. Oui, j'ai l'esprit un peu confus. Donc, Naomi et puis Elimelech habitaient en Israël. Et donc, ils ont eu deux fils. Et à un moment donné, en Israël, il y a eu une famine. Et du fait de cette famine, ils sont partis au pays de Moab, un petit peu plus loin, pendant une dizaine d'années. Et là, il s'est passé des choses qui ont été difficiles pour Naomi, puisqu'elle a perdu son mari, Elimelech. Ses deux fils se sont mariés, mais les deux fils sont également décédés. Elle est restée toute seule au bout de 10 ans avec ses deux belles-filles. Et à un moment donné, la famine donc a cessé en Israël. Quand la famine a cessé en Israël, eh bien, ils sont retournés. Elle est retournée uniquement avec Ruth. Il n'y a que Ruth qui a accepté de, de l'accompagner. Donc Naomi et Ruth sont rentrées, Naomi et sa belle-fille Ruth sont rentrées en Israël. Et arrivant en ville, eh bien là-bas, il y a des gens qui ont reconnu Naomi, bien sûr. Elles ont dit « Ah, mais c'est bien cette Naomi qui, il y a 10 ans, avait épousé le petit Elimelech et qui nous revient maintenant après cette période de famine. » Et voici, je vais citer ce que Ruth a dit à ce moment-là. Donc, le y est pas ? Non, merci. Donc, tant pis, on va se débrouiller comme ça. Donc, Naomi a dit la chose suivante à ses femmes qui l'avaient reconnue. « Ne m'appelez plus Naomi. » Et Naomi, ça veut dire, là, c'est ce dont Hervé est en train de parler à nos jeunes, ça veut dire « douceur ». Mais appelez-moi Mara. Et Mara, ça veut dire amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a affligé. Cette femme, qui était apparemment une femme, si elle correspondait bien à son identité, correspondait bien à son nom, c'est une femme qui était pleine de douceur. Et puis, elle a vécu des choses qui étaient difficiles, elle a vécu des épreuves difficiles, hein, décès de son mari, de ses fils, une de ses belles-filles qui n'est pas rentrée avec elle. Et de ce fait, bien, elle est rentrée dans une période qui n'était plus de l'ordre de la douceur, mais de l'ordre de l'amertume. Et c'est de l'amertume dont je voudrais parler ce matin. Alors, l'amertume en hébreu, c'est marar, hein, donc, d'où le nom de Mara, dont Naomi voulait être appelée. En grec, c'est pikria, mais à la limite, on s'en fiche. Il y a un terme grec qui correspond aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'amertume? Alors, l'amertume, c'est pour parler de sentiments qui sont à l'âme. De sentiments qui sont à l'âme, c'est qu'un aliment amer est à notre goût. Alors, essayons, à partir de cette expérience où on imagine manger un aliment qui est amer, qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Comment peut-on définir ce sentiment qu'est l'amertume? Qu'est-ce que c'est que l'amertume? Alors, c'est facile. Enfin, on a une aide, puisque ça correspond à la même chose que ce qui provoque sur notre goût, ce qui est provoqué sur notre goût par un aliment amer, est provoqué dans notre âme par notre amertume. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amertume? Il y a un arrière-goût. Alors, dans le sens, oui, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui dure. Alors, dans ma définition, je la commence, mais on la termine ensemble. C'est un sentiment durable de tristesse. Quelqu'un qui est amer, il est triste, et ce n'est pas une tristesse passagère, mais c'est une tristesse qui dure quand même. Ensuite, ce n'est pas simplement de la tristesse, c'est plus précis que de la tristesse, c'est une forme de tristesse plus précise que cela, l'amertume. On verra tout à l'heure qu'effectivement, c'est un poison, mais c'est souvent mêlé à un désir de vengeance, j'ai trouvé. Souvent, hein, pas toujours, mais c'est un sentiment durable de tristesse, souvent lié à un désir de vengeance. Pourquoi un désir de vengeance? Si on a envie de vengeance, c'est généralement parce que, voilà, c'est lié à une humiliation, ou à une déception, ou à une injustice. Je répète la définition que j'ai trouvée. Alors, définition qui correspond, c'est peut-être pas celle du dictionnaire, celle-ci, mais c'est plutôt celle qu'on va trouver, que les théologiens ont synthétisée. Dans chaque fois que l'amertume apparaît dans la Bible, ils ont essayé de faire une synthèse pour essayer de définir l'amertume d'un point de vue plus biblique, encore plus biblique que celle qu'on trouve dans le dictionnaire. C'est un sentiment durable de tristesse, souvent lié à un désir de vengeance, lié à une humiliation, une déception, une injustice. Et on en trouve beaucoup d'exemples dans la Bible. Quel est le premier exemple de, sans que le terme amertume soit cité, mais quand est-ce qu'on voit pour la première fois dans la Bible un personnage qui est rempli d'amertume? Le terme n'est pas cité, mais j'ai entendu Caïn, effectivement. C'est le tout premier. Et pourquoi? Ben parce qu'il estimait qu'il y avait une injustice qui avait été faite à son égard. Il se trompait. Mais lui, il estimait qu'il y a une injustice qui avait été faite à son égard parce que Dieu avait agréé l'offrande de son frère Abel, mais pas la sienne. Et il a estimé que ce n'était pas juste. Il est rentré, il est écrit, je lis, hein, il n'est pas écrit qu'il est rentré dans une grande amertume, il est écrit, mais c'est équivalent, qu'il fut très irrité et que son visage fut abattu, très irrité, grosse irritation, son visage était abattu. Et quand on l'imagine, moi je le vois comme quelqu'un qui viendrait de manger ou de boire quelque chose d'amer, un visage défait, avec des traits tirés de quelqu'un qui souffre. Il fut très, puis en plus avec des yeux, il y a quelqu'un qui souffre, c'est une chose, ça se peut se voir sur les traits, mais je vois dans ses yeux, moi, je vois sur son visage les traits tirés, mais je vois également dans ses yeux la colère. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et là, on va parler un tout petit peu, pendant quelques moments, de l'origine de l'amertume. Parce que si on veut savoir d'où ça vient, c'est comme les virus. Hein. Si on veut soigner, si on veut avoir une action, c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient. Dans le cas de Caïn, ça vient, dans le cas de Ruth, ça venait d'où son amertume? Pour reprendre Ruth, la première. Naomi, merci. Merci beaucoup. Merci de m'aider hein, ce matin. Voilà. Dis-moi. Alors les deuils, donc ça vient, c'est une épreuve. L'amertume de Naomi vient des épreuves qu'elle a pu subir. On est d'accord. Caïn, c'est un petit peu différent. Caïn, ça vient de où, son amertume? Ouais, la jalousie. Vous savez que j'ai déjà fait une prédication là, sur ce sujet-là. La jalousie, c'est quelque chose dans la Bible de terrible. Il est écrit que la fureur est cruelle, la colère est dangereuse, mais la jalousie, est-il écrit dans les proverbes, qui l'arrêtera? Très difficile à arrêter de quelqu'un de jaloux. Quelqu'un de jaloux, il peut tuer, on le sait, malheureusement. Hein. Il y a des crimes passionnels qui montrent bien que la jalousie, ça peut mener extrêmement loin. Et là, la jalousie, on le voit non seulement dans les crimes passionnels, dans les couples, mais on le voit quand il fait la démonstration ici. Hein. Parce qu'il est jaloux, il rentre dans l'amertume et... Non, il a pas utilisé son pistolet, mais n'empêche qu'il a tué, il a quand même tué, puis il n'a pas tué n'importe qui non plus. Ce n'était pas son conjoint, mais c'était quand même... C'est quand même son frère. Donc l'amertume peut venir d'une épreuve qu'on a vécue, où on estime que Dieu est allé trop loin dans le laisser-aller de l'épreuve que l'on traversait. Ça nous est tous déjà arrivé, ça, hein, de se dire, mais mon Seigneur, au début, ça allait, quoi. Ma maladie, mes difficultés, au début, ça allait un petit peu, mais il y en a, ça s'est rajouté, ça se rajoute, ça se rajoute encore, et on peut rentrer de tous... Quel que soit notre niveau spirituel, quelles que soient nos années de conversion, quel que soit notre ministère, on peut rentrer comme ça dans une période où on estime que trop c'est trop, puis qu'on rentre par rapport à Dieu dans de l'amertume. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas juste, mais il y a une logique quand même, et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Hein. Donc, comprenez bien que je ne condamne personne, parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc, Caïn, c'est la jalousie. Un autre exemple. L'homme qui, dans la Bible, dit le plus souvent le mot amertume, en se l'appliquant, en disant que lui-même est dans l'amertume, c'est facile, celui qui a vécu les épreuves. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme? Décès des enfants, ses biens, sa santé, les accusations injustifiées de sa femme et de ses amis. Toutes ces épreuves, Job dit plusieurs fois dans le livre qui porte son nom qu'il est dans une grande amertume, il ne comprend pas. Un autre exemple encore, donc Job, c'est les épreuves. Un autre exemple, que j'ai trouvé très parlant, les herbes amères que les Hébreux devaient manger à la Pâque avec du pain sans levain. Mais pourquoi des herbes amères? Parce que ça leur rappelle quelque chose. Ça leur rappelle quoi? Ça leur rappelle ce qu'ils ont vécu, les épreuves qu'ils ont vécues, l'esclavage qu'ils ont vécu en Égypte. Donc quelque chose de l'ordre d'une épreuve est extrêmement difficile aussi. Donc, les épreuves, la jalousie, l'amertume, ça peut être conséquence d'autre chose que de la jalousie ou bien des épreuves. Il y a d'autres endroits dans la Bible où on voit que l'amertume peut venir d'autre chose. Alors, on y pense moins souvent, mais quand même, on va lire ensemble. Donc, vous avez compris, hein, je ne peux pas projeter ce matin, donc je vais être obligé de rechercher dans ma Bible, dans le livre de Jérémie. Ce matin, on voit que Lamentation 1, dans Jérémie, dans le premier livre de Jérémie, intitulé dans ma Bible... Ce n'est pas inspiré, mais c'est le titre donné par certains théologiens, « Les malheurs de Jérusalem ». Et Jérémie pose la question, pourquoi est-ce que Jérusalem est malheureuse? Pourquoi est-ce qu'il leur arrive tout ce qui leur arrive? Il est écrit au verset 4, « Ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle, parlant de Jérusalem, elle est remplie d'amertume. » Pourquoi est-ce que Jérusalem, ici, est remplie d'amertume? Eh bien, Jérusalem est remplie d'amertume, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humiliée. Pourquoi l'Éternel l'a humiliée? À cause de la multitude de ses péchés. Le péché, c'est quelque chose qui peut conduire, qui peut nous conduire dans l'amertume. Pourquoi? Parce que quand on a péché et qu'on n'a pas accepté et qu'on n'a pas vécu le pardon de Dieu, j'entends, hein, mais quand on est quand on est en colère avec Dieu, quand on est contre lui, quand on pêche contre lui volontairement et qu'on n'a pas accepté son pardon, qu'on ne s'est pas laissé laver pour un chrétien, donc par le sang du Seigneur, à ce moment-là, par rapport à Dieu, il y a une coupure. On est séparé de Dieu, on est coupé de Dieu. Et cette coupure et cette séparation, c'est quelque chose qui fait extrêmement souffrir. On ne l'exprime pas toujours, mais quand on se sent coupé de Dieu, quand on se sent séparé de Dieu parce qu'on est dans le péché et puis qu'on a, on n'a pas résolu la difficulté, le problème, hein, à ce moment-là, il y a une séparation dans notre cœur, il y a quelque chose qui est difficile, qui est de l'ordre également de l'amertume. Le péché, quand il n'a pas été confessé, quand il n'est pas pardonné, c'est quelque chose qui peut nous conduire dans l'amertume parce que ça nous entraîne dans quelque chose où on sent la séparation d'avec Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, eh bien, on peut rentrer dans l'amertume. Donc, une autre conséquence de l'amertume que l'épreuve et la jalousie, c'est le péché. Le péché tout seul, je dirais, le péché tout simple, tout seul, le péché simplement peut nous conduire également dans l'amertume. C'est ce qu'on voit dans Lamentations. Pourquoi est-ce que Jérusalem est dans l'amertume? C'est parce que les Israélites se sont tournés contre Dieu, sont dans un état de péché par rapport à Dieu. Il y en a un qui va même plus loin, l'adultère peut conduire à l'amertume. C'est un péché particulier, hein. Mais l'adultère spirituel, certains me diront, mais moi je dirais l'adultère tout court aussi, dans la parole ici, l'interprétation, dans le texte que je vais prendre, l'interprétation peut être dans les deux sens. L'adultère peut conduire, est un péché particulier qui peut conduire à l'amertume. J'en veux pour preuve, Ecclésiaste 7, verset 26. Ecclésiaste 7, au verset 26. Donc l'Ecclésiaste, qui est un sage, vous l'avez compris, hein, on pense que c'est le roi Salomon. On est presque sûr que c'est le roi Salomon qui était rempli de sagesse et qui écrit tous ses conseils de vie qui sont vraiment excellents. Parfois c'est trop réaliste, c'est extrêmement réaliste l'Ecclésiaste, hein, mais c'est un réalisme qui mène, si on se laisse conduire par Dieu, qui peut mener, je pense, à la sagesse. Et voilà ce qu'il dit au verset 26, « J'ai trouvé plus amer, c'est bien le terme hébreu pour amertume, hein, enfin le terme correspondant, que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet. » Il parle à un homme, mais je suis sûr qu'on pourrait inverser les rôles, bien entendu, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Dans l'adultère, on trouve le péché, bien sûr, mais on trouve en particulier, c'est un péché qui en particulier nous conduit vers l'amertume. Donc vous avez compris, hein, l'origine de l'amertume, l'épreuve, la jalousie, le péché, par exemple, l'adultère, peuvent nous conduire dans un état de cœur, dans un état d'âme où on rumine les choses, où on se sent séparé de Dieu, où on n'est pas bien, et puis on finit par en vouloir à Dieu et un petit peu à tout le monde. On finit par devenir des gens extrêmement... On peut devenir des gens extrêmement sombres. Et j'en viens non plus aux origines de l'amertume, mais aux fruits de l'amertume maintenant. Qu'est-ce que l'amertume va produire? On en a un tout petit peu parlé entre les lignes, mais qu'est-ce que l'amertume peut produire comme fruit? Bien sûr, ce seront des mauvais fruits. Hein. Moi, je dirais que ça gâche tout le reste. Quelqu'un qui est dans l'amertume a fréquenté, moi j'en ai fréquenté, j'ai fréquenté une personne comme ça il n'y a pas longtemps, qui était tombée dans le péché, on dira, quelqu'un qui était tombé dans le péché et puis qui voulait un petit peu discuter avec moi. Ben, je vous assure, c'est épuisant, c'est extrêmement fatigant parce que la personne, ce n'est pas sa faute, ou rarement, mais c'est la faute à Dieu, c'est la faute au pasteur, c'est la faute à tout le monde. Et puis, c'est des gens qui viennent avec un... L'amertume, c'est, je dirais que c'est, si je devais lui donner une couleur, c'est extrêmement sombre. Hein. Ça engendre des pensées extrêmement sombres et ça gâche un petit peu tout le reste de la vie. L'amertume, ça dérègle les pensées et les réactions. L'amertume, ça perturbe intérieurement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des petites périodes comme ça d'amertume. Mais c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'on voit que les gens dans la Bible, quand ils sont remplis d'amertume, on voit Caïn, ben, il fait n'importe quoi. On voit Naomi, elle s'oppose à Dieu quand même, elle dit que ce qui lui arrive est de la faute de Dieu. On n'est plus objectif, on n'est plus réaliste. Il y a même un proverbe qui dit qu'il vaudrait mieux. On aurait l'esprit plus clair en étant complètement saoul qu'en étant plein d'amertume. Il y a un proverbe qui dit cela, il vaut mieux être saoul. Alors, si vous avez un peu d'amertume dans le cœur, on priera pour vous tout à l'heure, mais ne mettez pas en application strictement ce que je dis là, vous avez compris. Mais il vaut mieux être saoul, avoir trop bu, qu'être plein d'amertume. Parce qu'au moins, quand on a bu, ça dilue un peu les choses. Ce proverbe que j'ai trouvé très intéressant, c'est Proverbe 31, versets 6 et 7. Proverbe 31, versets 6 et 7, si vous voulez le trouver, ça peut être intéressant. Donc là encore, un conseil de sagesse. Donnez du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Celui qui a de l'amertume, donnez-lui un petit coup de rosé. C'est bien la parole de Dieu que je cite, hein, c'est pas un conseil du docteur Sylvain. Donnez du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme, qu'il boive. Il y a de l'ironie, certainement, là-dedans. Hein. Qu'il boive pour oublier sa pauvreté, qu'il boive pour oublier et qu'il ne se souvienne plus de son amertume, de ses peines, de son amertume. Non, vous avez compris. Si quelqu'un, tout à l'heure, qui était ici, avait un petit peu de l'amertume dans le cœur, rentre chez lui puis boit deux verres, ça ne sera pas de ma faute, j'aurais bien précisé ce que je ne veux pas dire. Hein. On est bien d'accord.
Ça précise quand même que c'est pour ne pas se souvenir.
C'est pour ne pas se souvenir, oui. Pour ne pas se souvenir. Pour qu'il oublie. Ça aide à oublier. Ouais. Donc voilà, mais il vaut mieux, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il me semble que la Bible va jusque-là. Il vaut mieux avoir bu un coup pour oublier plutôt que d'être plein d'amertume. Maintenant, il vaut mieux avoir une démarche beaucoup plus positive et aller voir un frère, une sœur, lui demander quelqu'un qui peut écouter et entendre ce que vous avez à lui dire, bien sûr, et qui peut s'en charger, et puis vous faire conseiller, y compris pour vous. Il y a une autre démarche que le vin par rapport à l'amertume. Vous avez bien noté ce que j'ai dit et ce que je ne voulais pas dire. Merci. Une autre caractéristique de l'amertume, alors là on est en plein dedans avec le... C'est quoi ce qui court en ce moment un peu partout dans l'air dans, ah oui, il y a un truc qui court, je n'ai pas bien suivi, mais il y a un truc comme ça qui...
Hein?
L'adoration de Dieu, j'espère. Mais il y a un autre truc qui court et qui est comme l'amertume. Peut-être qu'il a copié. L'amertume, c'est quelque chose qui est contagieux. La Bible nous le dit, l'amertume... C'est quelque chose qui est contagieux. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Quelqu'un qui est plein d'amertume, c'est pour ça que si vous êtes plein d'amertume, allez vous confier, mais peut-être pas à n'importe qui non plus. Parce que c'est pas, ça dépend, hein, mais bon, si c'est du vague à l'âme, vous pouvez aller voir un ami, une amie, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais l'amertume qui est produite par une grosse dépression ou par quelque chose de lourd comme ça, n'allez pas, il ne faut peut-être pas aller voir n'importe qui pour vous confier, parce que ça risque de passer à l'autre. Ça risque de le charger. Et où est-ce que je vois que l'amertume est contagieuse? On le voit très bien dans Hébreux 12, au verset 15. C'est un des versets que j'aurais voulu projeter, mais je vais le lire, Si vous l'avez sous les yeux, c'est encore mieux. On s'habitue à force de projeter à ne plus avoir, à ne plus lire dans le texte, mais bon, je vais le lire. Mais si vous avez le texte, c'est bien, comme ça vous serez bien convaincu que je n'ai pas inventé des versets. Donc Hébreux 12, verset 15, c'est Paul qui... non, ce n'est pas Paul, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas très bien qui c'est. Donc, qui dit la chose suivante, mais c'est bien un livre de la Bible hein, qui est reconnu, comme étant inspiré, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, nous y voilà, à ce qu'aucune racine d'amertume, ne poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, c'est bien décrit comme quelque chose qui pousse des rejetons, comme quelque chose qui produit du trouble, comme quelque chose qui peut infecter ceux qui nous entourent, comme un virus, un petit peu. Et ici, c'est quelque chose qui est très important. Si on veut donner, on veut parler de l'amertume, je crois qu'on ne peut pas ne pas lire ce verset-là et prévenir, attention, l'amertume, c'est contagieux. Si vous fréquentez quelqu'un qui est plein d'amertume, des fois, c'est bien d'aller faire un tour. C'est comme quelqu'un qui a un virus. Hein, on ne rejette pas, on s'éloigne. Ce n'est pas à nous d'avoir un rejet, un jugement. Mais il faut s'aérer l'esprit. Moi, j'ai eu la personne que j'ai eue il y a quelques temps, j'ai eu besoin de parler un peu aussi. J'ai eu besoin de m'aérer un peu la tête parce que si d'aller faire un tour, il faut faire attention. C'est comme un virus, c'est dangereux, il faut faire attention. C'est quoi ? Ah, pardon. Donc, attention, l'amertume, c'est quelque chose qui est contagieux. Attention si vous êtes plein d'amertume aussi, parce que sachez que vous risquez de mener la contagion chez quelqu'un d'autre, si c'est quelqu'un qui est fragile. C'est toujours pareil, c'est comme les vrais virus, les virus biologiques. Hein. Vous allez voir quelqu'un qui est plein d'amertume, qui va voir quelqu'un qui est fragile. Ben, ça risque de passer. Alors l'autre, il va peut-être rentrer dans l'amertume pour les mêmes raisons que vous, mais ça peut être aussi pour d'autres raisons qui lui sont plus personnelles. Hein. Il y a des choses qui passent très très bien, c'est la critique négative. La critique négative d'une situation ou trop négative, hein, parce que des fois, il faut être réaliste, mais quand des fois, on est trop négatif par rapport aux situations, par rapport aux gens, on oublie de voir le côté positif, on oublie de voir les qualités d'une personne, et on se concentre sur ses défauts, puis sur ce qu'elle a mal fait. Et ça conduit à l'amertume, et ça nous amène à ne plus être du tout objectif, et c'est des pensées, c'est des façons de voir les choses et les gens qui peuvent être communiquées à notre entourage. D'accord ? Maintenant, ça peut être simplement un état d'esprit. Hein, quelqu'un qui est dans l'amertume par rapport à sa propre situation et qui, la communiquant à quelqu'un d'autre, va communiquer de l'amertume par rapport à la situation de la deuxième personne. Hein, moi, imaginons que je sois plein d'amertume parce que Florian m'a fait un croche-pied en sortant du culte. Oh. Alors, je viens te voir, j'en parle avec toi, et puis je dis, t'as vu comment il est ce gars-là, tac, tac, il me plaint d'amour, pasteur, moi je crois pas, il m'a fait un croche-pied. Et puis toi, qu'est-ce que ça va provoquer chez toi ? Ben, Florian, oui, hein. Mais ça peut provoquer aussi, tu vas rentrer chez toi, puis tu vas dire à ton épouse, tu vas avoir un œil sur ton épouse, une façon de la voir, par exemple, qui sera, alors elle ne fait peut-être pas de croche-pied, mais elle... Tu vas avoir tous ces défauts, puis tu vas rentrer dans l'amertume pour d'autres raisons, mais simplement pour une attitude d'esprit que moi j'aurais eue, une attitude de cœur que moi j'aurais eue par rapport à Florian. Mais cette attitude de cœur, ça va communiquer la même attitude de cœur chez toi, mais pour d'autres situations, pour d'autres gens. Et moi j'ai remarqué que ça marche ça. Quelqu'un de négatif qui rentre quelque part, quelqu'un qui est vraiment négatif, hein, bien sûr, ça se communique, ça passe. Quelqu'un qui est positif, ça passe aussi. Il y a des gens, ils rentrent avec un sourire, ils ont toujours un sourire jusque-là. Moi, j'en connais quelques-uns, c'est super. C'est communicatif, il n'y a pas de doute. Alors, l'amertume, comme toutes les autres attitudes et sentiments et réactions humaines, mais l'amertume en particulier, c'est quelque chose qui est contagieux, il faut le savoir. Et comme pour le vrai virus, il faut se laver les mains, l'amertume, il faut faire attention. Vous êtes en contact avec quelqu'un qui est dans l'amertume, faites attention, n'écoutez pas tout ce que la personne vous dit. Soyez critique, aérez-vous, faites attention, ne vous chargez pas. Et puis si, inversement, c'est vous qui êtes dans l'amertume, ben faites attention parce que vous risquez de produire des dégâts autour de vous. Voilà. La thérapie maintenant. Le vrai virus, il faut voir son origine, il faut voir quelles sont ses caractéristiques, il faut voir si c'est contagieux. Puis à un moment donné, ben, il faut passer quand même à la thérapie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir de l'amertume? Comment faire pour aller plus loin? Comment faire pour que ça ne se développe pas? Comment faire pour, si possible, en guérir? Alors, je vous écoute. Il n'a rien compris, lui. Mais c'est quoi le gel hydroalcoolique que tu veux utiliser? Alors, exprimer les choses, ne pas les garder. Alors, comme je dis, pas n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, mais à un moment donné, oui, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Reconnaître une part de responsabilité. Donc, il faut que ça sorte, il faut reconnaître une part de responsabilité, oui. Donc, ça, une amorce de repentance quand on commence à dire, ben l'autre, il a peut-être pas fait, il était comme il fallait avec moi. Il a sa part de responsabilité. Mais moi, j'ai aussi ma part de responsabilité. Ça, c'est super. Un croche-pied, oui. Mais tout le monde le sait maintenant. Monique. Alors, le pardon. Ouais. Alors, le secret du secret, effectivement, parce que dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, dans Hébreux 12, 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Mais tu l'as dit, Philippe. C'est le pardon. Et ça, dans quel verset le voyez-vous? Un verset où l'amertume est citée, un verset où l'amertume est citée et où vous avez la solution. Le verset thérapie, le verset, comment on dit, ordonnance. Le verset ordonnance pour l'amertume. Non, il en parle, mais il y en a un qui est beaucoup plus clair par rapport au pardon. Un verset qui relie, enfin qui fait le lien entre l'amertume et sa thérapie, qui est le pardon, c'est Éphésiens, vous le saviez, j'en suis sûr, Éphésiens 4.31. Non, moi je ne savais pas non plus avant d'avoir regardé. Éphésiens 4.31, que toute amertume, c'est le début du verset, toute animosité, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Là, c'est pour l'Église. Que tout cela, et en premier, ce qui est cité, c'est l'amertume. La méchanceté, etc., soyez, etc., la calomnie, la méchanceté, la clameur, l'animosité, mais en premier, que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Et juste après, écoutez bien, si on pouvait retenir qu'une chose, ce serait peut-être celle-là, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tac. Alors là, l'amertume prend une double baffe, on la vire de l'Église, et puis c'est pas encore le paradis sur terre, mais on s'en rapproche. Soyez vous pardonnant réciproquement. Donc ce n'est pas moi qui dois pardonner à Florian, c'est Florian qui doit me pardonner, et puis c'est toujours réciproque ces choses-là, ça dépend des situations, etc. Vous pardonnant réciproquement, une fois l'un, une fois l'autre, comme Dieu, on a le modèle bien sûr, on a le modèle comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jésus l'a accepté l'amertume, quand cela? La coupe amère, l'éponge remplie de vinaigre quand il était sur la croix. Puis quand il a vu la coupe amère aussi, il l'a accepté, ce n'était pas parce que lui était plein d'amertume de son propre fait, dans son propre cœur. C'était pour prendre en charge la nôtre, bien entendu. Donc il l'a accepté, c'est pour que nous, on ne l'ait plus. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est l'exemple qu'il nous a donné, qui nous conduit sur la voie où on connaît la solution, où on connaît la thérapie, où on a l'ordonnance concernant l'amertume, nous pardonner réciproquement les uns les autres. Et moi, ben je me permets d'agrandir aussi le cercle, non seulement à l'Église, mais à tous ceux qui nous entourent. Parce que le pardon, c'est vide. Les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens, ne sont pas appelés à nous pardonner de la même façon. Mais nous, on est appelés à pardonner à nos collègues de travail, à nos voisins, aux gens qu'on fréquente. C'est évident qu'on est appelé à leur pardonner également. Hein, donc j'agrandirai un petit peu le cercle. Puis je rajouterai, si vous me permettez, encore une ou deux petites choses, quelque chose qui peut aider aussi dans ce traitement de l'amertume. Hein, donc vous avez compris, c'est le pardon, c'est la grâce de Dieu, c'est le pardon. Mais aussi des fois, soyons sans être aussi spirituels que ça. Et moi j'aime bien des fois être pas trop spirituel. Bah, des fois, c'est simplement de remettre les choses un petit peu à leur place, à leur vraie grandeur, à leur vraie taille, à leur vraie dimension. Hein, parce que il y a des fois, commençons par ne pas faire des problèmes comme ça, avec des petits événements comme ça. Hein, ça me semble être la première chose. Sinon, on est presque trop. Des fois, il faut être. C'est pas je m'en fiche. C'est mais bon, on vit sur Terre. Hein, et tant qu'on vit sur Terre. Ben, au cours de la journée, combien de fois on est blessé, alors qui, par un prof, par un élève, par un frère, par ma femme, par mon chien, non, par les voisins, etc. Les petites blessures, les petites vexations, les petites... Mon Dieu, s'il fallait faire la liste en fin de journée, mais il y aurait de quoi déprimer, quoi. Bon, laissons tomber, et puis occupons-nous peut-être... Des choses qui sont plus conséquentes, qui sont plus importantes, qui sont plus blessantes. Donc soyons, je crois que c'est une qualité qui s'appelle la bénignité, hein, c'est le caractère de ce qui est bénin, c'est pas grave. Parfois, il faut dire c'est pas grave. On ne va pas toujours aller voir les... Des fois, il faut aller demander pardon aux autres. Il faut se déplacer, il faut demander ou au moins téléphoner. Puis il y a des fois, allez, tourne la page, va te coucher... Va te coucher après avoir tourné la page. Hein. Moi, j'aime bien dire ça aussi. Il ne faut pas se coucher sur sa colère. Mais on classe les choses et puis on oublie finalement. Je crois que c'est aussi une façon de ne pas avoir une coupe qui est remplie d'amertume, une coupe qui se remplit petit à petit. Parce que sinon, on finit par accorder de l'importance à des choses qui n'en ont sans doute pas tant que ça. Pour nous encourager, je terminerai par là. Eh bien, on va voir la fin de l'histoire de Ruth, de Naomi, pardon. Donc Naomi qui est sortie, qui a été bénie par Dieu. Je ne veux pas lire toute l'histoire de Ruth et Naomi, mais à la fin de l'histoire, ça se finit bien. À nouveau, elle retrouve son identité de Naomi la douce. Et je vais lire la fin de l'histoire pour nous encourager. Et qu'on voit bien ce qui se passe lorsque on finit par laisser tomber notre amertume. Hop, ça y est. Donc, vous savez ce qui se passe ensuite. Ben, Ruth va avoir un enfant avec Boaz. Et puis, c'est Naomi, la mamie, qui va être également extrêmement bénie. C'est étonnant parce que c'est Ruth et puis Boaz qui ont un enfant. Et puis, les voisines vont donner un nom, et elles vont dire la chose suivante, les voisines lui donnèrent un nom à l'enfant. Un fils est né à Naomi. Donc, c'est marrant, c'est pas la maman, c'est la grand-mère. Et elles ne disent pas, un fils est né à Ruth. Elles disent, un fils est né à la mamie. Alors, c'est un peu vrai aussi, son grand-père et grand-mère, on sait bien que c'est notre chair aussi, hein, ces petits machins-là. Oui, c'est pour ça. Mais c'est pas noté. Ils auraient pu noter à Ruth, quoi. Mais c'est pas noté à Ruth, c'est noté à Naomi. Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père. Alors ce fut le père. Et quand on descend toute la généalogie, on arrive à David. Puis on finit par arriver à Jésus. Donc quand l'amertume cesse, moi je crois que tôt ou tard, ça peut être tard. Hein, ça peut durer longtemps. Les épreuves peuvent être longues. Les choses sont pas toujours instantané et rapide. Mais au bout du compte, moi, je veux avoir cette foi avec vous, qu'on ait cette foi ensemble, qu'à la fin, ben, Dieu bénit. À la fin, c'est l'enfant de la bénédiction qui arrive. Et il n'est pas dit qu'un fils est né non plus à Mara, le nom amertume de cette grand-mère, mais elle retrouve son identité de douceur. Un fils est né à Naomi, rappelez-vous. Mara, c'est l'amertume, alors que Naomi, c'est la douceur. Elle retrouve son identité première qui est d'être paisible, d'être douce, d'être une femme qui est bénie par Dieu, et ça se voit. Alors, je vous propose qu'on prie un instant, simplement, pour peut-être, si vous avez un sujet d'amertume dans le cœur, c'est peut-être, on ne va peut-être pas se quitter quand même, sans que les uns et les autres aient l'occasion, s'il y a lieu, bien sûr, de faire cette démarche dans leur cœur. D'accord ? Alors, si vous êtes plein de joie, plein de paix, c'est super, mais si vous avez un petit problème comme ça qui traîne ici au fond de votre cœur, peut-être c'est le moment de le remettre au Seigneur. Seigneur, je te prie d'entendre tous ceux qui en ce moment élèvent dans leur cœur la voix, te parlent et te remettent une cause, une origine, un sujet d'amertume. Bénis ces frères et sœurs qui ce matin ont cette démarche. Parce que je sais, Seigneur, combien tu es heureux quand tes enfants qui sont dans un sujet d'amertume, décident de rentrer sur le chemin du pardon et de te confier cela. Seigneur, les anges dans le ciel sont heureux, toi tu es heureux. Là, Seigneur, là, toute la croix trouve pleinement son sens. Seigneur, nous voulons bénir ce matin ces frères et sœurs qui ont cette démarche dans le cœur. Amen. Nommez dans votre cœur le sujet, que ce soit bien, que ce soit pas simplement un vague à l'âme, mais que ce soit quelque chose sur lequel on puisse mettre un nom ou quelques mots.